Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons ensemble parler de votre roman. Je disais d'ailleurs en le présentant, je suis pas sûre vraiment que ce soit un roman. C'est plutôt un conte philosophique, mais bon, on va en parler ensemble. C'est L'Horloge Enchantée. C'est publié aux éditions Fayard. Je vous ai demandé de nous faire l'amitié de venir un tout petit peu plus tôt pour qu'on ait votre regard sur cette actualité. Alors, on vient d'entendre Gérard Benhamou, un arabe israélien qui vient d'être décapité par Daesh. C'est la première fois que c'est un arabe israélien qui est décapité par Daesh. Symboliquement, qu'est-ce que ça représente cette décapitation? Parce que on a l'impression qu'on est dans une autre époque, on est dans une autre ère. C'est même pas qu'on a reculé, c'est que on retourne à des pratiques qui nous paraissaient totalement invraisemblables. Et en même temps, d'un point de vue symbolique, effectivement, on joue sur quelque chose de fort. Le regard de la psychanalyse, peut-être.
Mais écoutez, c'est quelque chose d'horrible. On ne peut pas imaginer abjection plus grave et plus insupportable. Ceci dit, évidemment, ça excite énormément de fanatiques et il y a une complaisance des internautes et autres qui, tout en voulant pas regarder, regardent quand même et on joue sur cette fascination. Pourquoi ça fait partie des fantasmes originaires concernant le sacré. L'humanité a toujours décapité. J'ai fait il y a quelques années une exposition au Louvre sur la représentation des têtes coupées. Ça renvoie sans doute à l'importance qu'est la tête et le corps pour l'humain, et la tête étant associée à l'organe de pensée, mais aussi à l'organe sexuel, c'est une forme de castration paroxystique qui mobilise l'homoérotisme de ces machos virils et militants et qui exagère dans la peur de la mort, en se donnant comme les maîtres de la mort dans ce monde. Et ça touche des fantasmes extrêmement archaïques dans lesquels on ne peut pas entrer aujourd'hui. Mais ceci étant dit, l'histoire de l'humanité a dépassé cela et les religions ont cessé d'être sacrificielles, ont cessé d'être décapitantes et finalement, il y a quelque chose dans cet islamisme radical qui ne tient pas compte de cette évolution du sacré.
La suite de cette édition, et on est toujours dans la violence, et c'est une violence d'un autre ordre. Après le choc de la mort en Argentine de 10 personnes, dont la navigatrice Florence Artaud et la nageuse championne olympique Camille Muffat, l'enquête sur les causes de la plus grave tragédie de l'histoire de la télé-réalité a commencé, tandis qu'évidemment les hommages se sont multipliés. Hier, Jean-Pierre de Vinzancy, le président de l'Institut du Sport, donnait une conférence de presse. Alors, Julia Kristeva, évidemment, beaucoup d'émotions hein, dans cet accident qui nous touche un peu tous de plein fouet. D'abord parce que c'est de la télé-réalité et qu'on sait que de plus en plus de téléspectateurs sont attirés vers ces programmes de télé-réalité où on a la sensation d'être plus près de ces gens connus, de ces étoiles. Et puis ensuite parce que évidemment, quand ce sont des disparitions soudaines comme ça, il y a quelque chose de l'ordre de la stupeur. Est-ce qu'on réalise qu'on est mortel ?
C'est une question radicale et c'est vrai que notre civilisation ne nous confronte pas facilement à réfléchir sur cette mortalité. Maintenant, on est dans la loi qui concerne l'accompagnement de la vie. On commence à y penser, mais il faut dire que c'est vraiment exceptionnel. On essaye de dénier cette réalité qui nous habite. Mais moi, je suis à la fois très, très émue, comme tout le monde, et fascinée par l'héroïsme de tous ces gens qui s'est manifesté dans leur vie sportive et qui nous conduit à nous transcender en permanence si on veut être un peu à la hauteur de cette humanité mortelle mais qui, se sachant mortelle, va aux limites de soi-même. Mais ce qui me choque beaucoup, et peut-être qu'on arrivera un jour, c'est de se demander où est l'erreur, qu'est-ce qui a permis ça ? Parce qu'on s'oriente vers, je veux dire, cet accident. On s'oriente vers la dite erreur humaine. Qu'est-ce que c'est une erreur de pilotage, apparemment? Est-ce que c'est une erreur d'incitation d'aller au plus près pour filmer le côté extrême de l'aventure? Il faut vraiment se poser la question de ce qu'on filme. Les gens qui sont avec des yeux bandés, on veut peut-être les voir le plus près possible. On peut demander à un des appareils de s'approcher au maximum. Ce n'est pas exclu. Il faut s'interroger sur l'extrême de l'image. Extrême assoupissement, on banalise, on est tous frères, on est tous héros, et en même temps, l'extrême de l'excitation. On joue avec cette extrémité qui est peut-être aussi dangereuse. Ce n'est qu'une hypothèse qui ne joue peut-être pas dans ce cas-là, mais qu'il faut avoir en vue quand on fait de l'extrême.
Alors, j'ai envie simplement de faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure quand on parlait de Daesh, où vous disiez finalement le fait de mettre sur Internet, de donner à voir, on a envie de voir, et puis en même temps on n'a pas envie de voir, mais aussi on a envie de voir. Est-ce que on n'est pas dans une civilisation de voyeurisme total finalement, où on veut être tout près, au plus près des choses, qu'elles soient de l'ordre de l'intime, et c'est la télé-réalité d'une certaine façon, ou pas ?
C'est tout à fait le piège de l'image qui nous permet d'être au plus près de la nudité de chacun jusqu'à la mort, et c'est une manière aussi de l'apprivoiser et à la limite de le banaliser. Et en même temps, l'image, c'est qu'un monde banalisé ne peut pas vivre, donc il faut exciter. Donc banalisation et excitation. Et là, on joue avec la mort.
Annette Lévy-Villard vient de nous rejoindre pour sa chronique qui va être consacrée donc à la marche de Selma. Peut-être une réaction sur ce qui s'est passé.
Je voulais continuer sur ce que vient de dire Julia Kristeva sur notre civilisation de l'image. Moi, ce qui me frappe, c'est que justement, on parle des trois célébrités dans ces sportifs parce qu'ils sont connus. On ne parle pas des sept autres.
On a parlé aujourd'hui, tout à l'heure.
On en parle peu. J'espère qu'on va en parler plus. Et on se dit, effectivement, il vaut mieux être passé à la télévision et être célèbre quand on est dans un crash d'avion, parce qu'autrement, personne ne parle de toi. Donc, je trouve ça, justement, ça va dans le sens de ce que vous dites sur le siècle de l'image, de la célébrité médiatique qui écrase tout.
Deux projets de loi pour relancer la natalité en Iran qui risquent de réduire les femmes à des machines à faire des enfants. C'est ce que dénonce ce matin Amnesty International en appelant les autorités à déchirer ces textes. Le projet de loi sur la population et l'exaltation de la famille qui doit être examiné au Parlement rendrait plus difficile l'accession à l'emploi pour les femmes incapables ou non désireuses d'avoir un enfant, car il obligerait les sociétés publiques et privées à embaucher en priorité pour certains postes les pères de famille, puis les hommes mariés sans enfants et enfin les mères de famille. Les femmes qui ne seraient pas mariées et qui n'auraient pas d'enfants seraient du coup véritablement bannies de la société. Alors là, Julia, évidemment, je me tourne vers vous, mais c'est un peu compliqué de ne pas le faire aussi. Oui, on parlait tout à l'heure de reculade, mais on marche sur la tête.
Et oui, bon, on a dépassé la journée de la femme, et heureusement qu'il y a des situations comme celle-ci d'une certaine manière pour attirer l'attention sur le fait que l'obscurantisme continue à sévir sur cette terre et tout particulièrement l'endroit des femmes. Cette espèce de d'incitation à la maternité compulsive et qui réduit les femmes à une espèce de procréativité sans création.
Des
ventres féconds et donc pas d'autres capacités pour être sur cette terre que de pondre. Moi, je suis une très bonne tête pour vous parler contre cela, parce que je suis très attachée aussi à valoriser l'expérience maternelle dans le cadre du féminisme, et à regretter que toute une partie du féminisme a un peu sous-estimé quand on n'a pas diabolisé la maternité. Ça me semble quelque chose qu'il ne faut surtout pas abandonner, au contraire construire de nouveaux discours sur l'expérience maternelle et sur sa compatibilité avec une créativité intellectuelle, artistique, etc., et comment faire pour aider les femmes dans ce domaine-là. Mais quand on arrive à des horreurs de ce qui se passe là en Iran, évidemment, on peut ne que résister à ce type de totalitarisme maternaliste.
Les États-Unis ont accusé la Russie d'imposer le règne de la terreur en Crimée et dans l'Est séparatiste pro-russe de l'Ukraine, malgré l'annonce du président Pero Petrochenko d'un retrait de la majeure partie des armes lourdes par les deux camps le long de la ligne de front. Et aux États-Unis, nous allons rester avec Annette Lévy-Villard pour sa chronique, une chronique anniversaire.
Oui, anniversaire, c'était il y a 50 ans. Donc bonjour Paul Henriette, bonjour Julia. Eh bien, je reviens tout juste des États-Unis, du Texas, où j'ai donné une conférence sur la France post-Charlie, post-Hypercacher, post-Copenhague et post-élection partielle dans le Doubs, en plein tsunami de vagues de sondages à 30% pour le Front National. Ma conférence se terminait par un happy end. Deux points. La démocratie finit toujours par triompher, ai-je affirmé, et j'espère que j'ai raison. Donc j'étais dans le sud au moment où on fête les 50 ans de la fameuse marche de Martin Luther King à Selma pour les droits civiques des Noirs. Alors, il faut rappeler que les Noirs américains avaient le droit de vote légalement depuis 1870, soit 74 ans avant que le général de Gaulle donne le droit de vote aux Françaises. Mais il était très difficile pour eux de s'inscrire sur les listes électorales. Il a fallu 10 ans de bataille contre la ségrégation depuis 1955, depuis le jour où la jeune Rosa Parks avait osé s'asseoir au premier rang d'un bus, rang réservé aux Blancs dans l'Alabama. Il ne faut pas oublier ce sujet que ces 10 ans de bataille pour les droits civiques ont vu beaucoup de jeunes juifs américains venir du Nord participer à ce mouvement aux côtés des Noirs. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. J'étais donc dans une petite ville du Texas visitant le vieux théâtre rénové. À l'orchestre, c'était les fauteuils des Blancs, m'a-t-on expliqué, et en haut, le balcon, plus petit pour les Blacks. Il n'y a pas si longtemps, le professeur d'université blanc qui m'invitait me rappelait comment il était impressionné le jour où, dans son lycée, les deux premières petites élèves noires sont arrivées. Donc c'est notre génération. Et puis je pense à la nuit du 4 novembre 2008. J'étais à Harlem quand la victoire d'Obama s'est affichée sur un écran géant. La foule a éclaté en sanglots. La vieille dame à côté de moi n'arrêtait pas de pleurer et répétait « J'aurais tant voulu que ma grand-mère soit là pour voir un président noir élu aux États-Unis. » C'était une autre date historique dans la marche vers l'égalité. Depuis le « I had a dream » de Martin Luther King au « Yes, you can » de Barack Obama, les choses avaient bien changé. Mais l'histoire n'est pas finie. On l'a vu quand à Ferguson, dans le sud, dans le Missouri, un jeune noir désarmé a été abattu par un policier blanc. Les quartiers noirs se sont embrasés à nouveau. Un président noir à la Maison Blanche ne suffit pas à cicatriser 2 siècles d'esclavage et de ségrégation et à réconcilier le présent.
Merci Annette, et on va voir d'ailleurs que l'actualité se poursuit, et dans la tonalité que vous venez de dire avec l'actualité française, peut-être une réaction Julia Kristeva, et je vais vous dire sur quoi cette réaction. Finalement, on parlait de reculade en parlant des femmes, en parlant de Daesh. S'il y a bien quelque chose qui a pas reculé, parce que ça n'a pas bougé, c'est ça. C'est-à-dire c'est le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, etc. C'est-à-dire la difficulté que chacun de nous a, à notre façon, d'accepter ou de regarder l'autre qui n'est pas comme nous. Parce que c'est de ça, en fait, aussi dont il s'agit. Donc, je voudrais vous entendre là-dessus, sur notre incapacité, finalement, à ne pas accepter que nous soyons tous des clones.
Oui, écoutez, c'est quelque chose de radical. Moi, en écoutant Nathalie Villard, je pensais que j'étais moi aussi à la célébration de l'élection d'Obama à Times Square, et c'était hier, c'est tout récent, et on vit encore avec l'espoir que les choses vont changer, ont changé, et c'est loin d'avoir réussi à ce que ça change. Quand vous dites les droits des Noirs, ça fait 50 ans, mais c'est rien, c'est tout près de nous, ces 50 ans. Mais, en effet, ça change la surface et le fond reste extrêmement xénophobe, antisémite et raciste. La difficulté d'assumer l'autre est extrême. Elle constitue peut-être l'être humain. Cette difficulté, on ne la voit pas souvent dans sa profondeur et dans ce qu'elle a de tragique. Et si on ne place pas l'éducation, la culture à ce niveau-là, on risque de grandes crises. On le voit maintenant avec la laïcité. On a cru que, en répétant liberté, égalité, fraternité, c'est naturel et que ça va marcher. Mais pas du tout. Il faudrait expliquer pourquoi l'égalité, que veut dire la fraternité. Incarner ça dans des récits, dans des combats, dans des histoires, pour essayer de secouer les gens, de le faire parler, penser à cela tous les jours, sans s'arrêter. Et si on ne fait pas ça, on s'expose à ce qu'on dit aujourd'hui, la décapitation, des exterminations, des racismes qui sommeillent et qui sont prêts à se réveiller.
On va marquer une page de publicité. Avant, je me tourne vers vous, Anne-Marie Baron, puisque vous êtes également dans nos studios pour votre chronique cinéma tout à l'heure. Il y a un film, Selma, qui va sortir, ou qui est sorti, ou qui sort demain, enfin, qui est en tout cas...
aujourd'hui.
Ça y est, il sort aujourd'hui.
Oui, alors
qui rappelle donc cette
Et
marche.
Moi,
ce que je vais vous dire, au fond, c'est qu'il y a deux façons de faire revivre l'histoire. Il y a la reconstitution historique au cinéma, et c'est le cas de Selma. Très beau film, mais très classique, très reconstitutif. Et puis, il y a le film dont je vais vous parler, qui est Crosswind, qui est alors là une démarche complètement radicale, qui est un film en tableau vivant. Et là, on a les deux extrêmes du cinéma, c'est-à-dire vraiment deux façons radicalement opposées de faire revivre l'histoire.
Alors, Julia Kristeva, peut-être une réaction sur cette loi, sur la nécessité de cette loi. On parlait, hein, on en parle depuis le début de cette édition, de la mort, de la façon que chacun d'entre nous a d'appréhender la mort. Est-ce que, selon vous, il faut légiférer? Est-ce que, selon vous, il est important, finalement, que chacun puisse choisir légalement, puisque c'est de l'égalité dont il s'agit, puisse choisir légalement de mourir lorsqu'il le décide?
C'est une question très difficile, puisque la mort est peut-être, plus même que la vie, une décision très intime et très personnelle, pourrait l'être et concerne de manière très précise chacun. Et dire qu'on légifère peut avoir quelque chose de très intrusif. Je pense quand même que c'est indispensable dans une société où le soin médical, l'enterrement, toutes les questions qui concernent la famille qui entoure le mourant, etc., sont aussi des questions de société. Donc il était important qu'on avance dans cette direction, et j'ai le sentiment que cette loi, qui est très imparfaite, est quand même un avancement. Très minime, très consensuel. On comprend que cela a été prudent parce qu'il ne s'agissait pas de cliver une fois de plus la nation française, qui s'est déjà beaucoup clivée depuis quelque temps sur des questions sociétales, et elle ne semble pas prête pour aller plus loin. Apaiser la souffrance avec des soins palliatifs accélérés et rendus plus efficaces, ça paraît le minimum. Beaucoup le regrettent. Les religions sont mobilisées contre. On comprend qu'elles ne veulent pas que le soin apporté à la mort devienne une machine à faire mourir, qu'il y ait des abus. Ils se dressent contre les abus. De ce côté-là, on ne peut pas ne pas les suivre.
Ce n'est pas que les abus, il y a aussi une histoire d'éthique extrêmement importante.
Il y a plus que les abus, donc la défense qu'elles peuvent donner, c'est qu'elles résistent aux abus. Mais il y a plus que ça. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut donner activement la mort quand la personne la souhaite. Et ceci est impossible, et c'est ça qui choque, je pense, les religions. Le corps médical est aussi assez partagé. Parce que, évidemment, si quelqu'un fait une tentative de suicide, et je travaille à Sainte-Anne et je sais combien des déprimés sont prêts à ça, nous essayons d'aider ces personnes et de ne pas les accompagner dans cette démarche suicidaire. Comment un médecin peut empêcher le suicide dans ces circonstances-là et l'infliger en fin de vie? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais il est possible, et en tout cas il n'est pas impossible, que le corps médical, les instances éthiques et les politiques puissent s'entendre à ce que cette mort active puisse entrer un jour ou l'autre dans la loi française.
Juste après la pub, nous allons, Julia, parler de votre dernier roman, L'Horloge Enchantée. C'est paru aux éditions Fayard.
RCJ.
Roman paru aux éditions Fayard. Alors, en principe, quand on vous reçoit, on vient avec un tas de notes, parce que quand on a lu, on a pris des notes, etc. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Non pas que je n'ai pas voulu le faire, parce que je l'ai fait chez moi, évidemment, mais parce que c'est un livre qu'on porte. C'est-à-dire que j'ai voulu, après l'avoir lu, me dire, mais finalement, qu'est-ce qui m'en est resté de ce livre? Et c'est pour ça que vous me voyez simplement avec le livre. Alors, le pitch, assez facile. Une femme à l'île de Ré se noie, ou est dans la mer, se noie. Elle est sauvée par un monsieur qui s'occupe des astres. Cette dame a un enfant qui est différent. Et en fait, on va suivre comme ça ces trois personnages. Elle, dans un temps inconscient. Alors, j'ai pas dit que la dame était psychanalyste, j'ai pas dit qu'elle était journaliste, qu'elle travaillait dans un magazine de psychanalyse. Et donc, on va jouer avec le temps dans cette horloge enchantée que vous venez d'écrire. Et évidemment, on va croiser un certain nombre de vos contemporains, si je puis dire, puisque le temps n'existe plus. Enfin, en tout cas, on ne parle plus du même temps. Et on va faire référence à de nombreuses surprise à Claude Siméon Passement, puisque, eh bien, il n'est pas sans lien avec votre sauveur. Quand je dis vous, c'est quand même très autobiographique.
Ben oui, oui, c'est assez autobiographique et pas seulement parce que j'ai essayé de créer à la fois des personnages et une trame narrative dans laquelle se condensent des expériences personnelles et aussi des choses que j'ai repérées dans le monde aujourd'hui, donc des gens qui ne sont pas moi mais qui me paraissent être proches et lointains mais qui m'attirent, qui m'aimantent, une sorte de magnétisme, et aussi des questions dont certaines sont celles que nous avons déjà effleurées aujourd'hui dans cette émission, la vie, la mort, le temps de l'histoire passée, cette histoire qui n'en finit pas, les religions, etc. Mais néanmoins, il y a quand même un personnage principal qui est cette Nivi, qui en hébreu veut dire ma parole, et qui me représente, mais j'allais dire en plus grave et en mieux, parce qu'elle est plus déprimée que moi et elle tient le coup un peu mieux que moi, j'espère, et qui incarne pour moi les femmes d'aujourd'hui. C'est un éloge des femmes d'aujourd'hui qui tiennent debout quand tout s'effondre, l'espace, le temps. On nous invite à nous adapter quand ce n'est pas au marché et à la crise et à l'austérité, c'est à l'islam intégriste, mais dans cette morosité, elle arrive à la fois à avoir une expérience pleine d'épreuves et à tenir debout. Alors les épreuves, c'est l'exil, c'est ses affaires amoureuses, c'est sa maternité, et elle tient parce qu'elle arrive à se construire un organe qui se voit pas, mais qui est la vie intérieure. Et cette vie intérieure est possible par empathie avec les autres. Empathie dans sa forme extrême, c'est l'amour avec son enfant qui a des problèmes, qui est malade mais qui s'en sort, avec son amant qui, comme beaucoup d'hommes, n'a pas les pieds sur terre, il vit dans les étoiles, et on en connaît chacune des gens qui vivent comme ça dans les étoiles, mais lui en plus il est astrophysicien, il n'est jamais là, il réfléchit sur le temps, sur l'histoire, etc. Et elle, dans tout ça, arrive à tenir, donc, grâce à ces deux personnes essentiellement, mais aussi grâce à son métier, parce que comme vous êtes aussi journaliste, mais dans un magazine qui s'occupe de psycho, et là, une chef qui réfléchit beaucoup sur le fait qu'il y a une crise de la presse, que tout devient globalisé, etc., qui devient une mère par intervention artificielle, donc là, le problème de la famille, j'ai voulu faire une trame narrative qui plonge dans l'actualité. Et en même temps, faire une réflexion, parce que c'est une femme qui fait partie des héros du monde moderne. Je trouve que on est habitué un peu par le roman contemporain à considérer comme héros les gens qui éprouvent une misère profonde, et Nivi n'est pas épargnée de cela, mais la misère profonde qu'on nous montre, c'est par exemple, j'ai été abusée par mes parents, ou je vais abuser, je suis dans un extrême érotisme, etc. Et ça devient ce qu'on appelle l'autofiction. Ou alors, on va prendre des gens du quartier ou les gens de la minorité, de l'islam, etc. Ce sont en effet des héros du temps moderne. Mais on oublie qu'il y a un autre héroïsme qui est, par exemple, celui des scientifiques. Qui vivent dans biologie ou en physiologie ou en cosmologie avec l'effort de penser, de créer des modèles pour affronter des réalités qu'ils découvrent et qui changent les mentalités à long terme. Et ces femmes qui sont des psychologues, des journalistes et qui lisent par exemple Balzac, par exemple Émilie du Châtelet, et qui sont des êtres qui ont une vie qui leur permet, grâce à ces aimantations, de résister à l'amorosité et à la dépression. Et donc, cette réflexion sur le temps qu'elle mène fait que le temps, avec Nivi, est le héros principal. Et comme par hasard, il s'incarne dans une horloge que Nivi et son fils ont découverte à Versailles, et qui me permet d'introduire un troisième fil qui me paraît très important dans ma réflexion et dans l'actualité, dont on n'a pas parlé aujourd'hui dans l'émission parce que c'était peut-être pas à l'ordre du jour, c'est le désir de France. Je suis de ces émigrés adaptés, plus ou moins souffrants et qui tiennent debout et qui ont un désir de France et qui pensent que ce pays, avec ses crises, a une certaine tenue et qui peut peut-être incarner, malgré ses difficultés, cet idéal humaniste qui frémit à l'époque où je prends le pays, c'est-à-dire dans les cabinets astronomiques de Louis XV, qui était un personnage loufoque,
un enfant. C'est un très très beau portrait, Louis. Moi, j'ai découvert Louis XV avec vous.
Eh bien, merci beaucoup, parce qu'il était complètement malmené par beaucoup d'historiens.
Mais oui, mais oui.
C'était un enfant orphelin, donc un peu déprimé, pas très bavard, pas communicant. Ensuite, il a compensé ça par une félicité exubérante. Il a eu X enfants avec sa femme, X plus X avec ses maîtresses. Il a eu ce fameux parc au cerf qui était une espèce de loupanard organisé par Madame de Pompadour elle-même à Versailles, donc les petites maîtresses, etc. Et on a vu que ça pour incarner en lui la décadence de l'ancien régime. Mais à part ça, il y a eu quand même le fameux style Louis XV, et dans nos familles, il y a eu pas mal de meubles où ils traînent encore dans chez les antiquaires. On connaît le rococo, tout le côté baroque aussi, enfin, c'est cette France de grand style. Mais aussi, c'était un amoureux des mathématiques, des sciences. Il a beaucoup abrité, favorisé Buffon, la Condamine, Cassini, enfin tous ces grands savants de l'époque, mais aussi des gens du tiers état, comme ce monsieur qui s'appelle Claude Simeon Passement et qui a imaginé cette pendule astronomique autour duquel se réunissent ces personnages et se concentre le roman, et qui est une pendule existante. Nous sommes allés avec mon fils David quand il était petit, et le personnage du roman, Stan, le petit jeune, et sa mère Nivy, ils vont souvent parce que dès qu'il se réveille de ses maladies, il veut aller revoir cette pendule. Et elle existe, donc j'invite nos auditeurs d'aller la visiter parce que, d'abord, elle est très belle. C'est un art vraiment de maqueterie et de d'ébénisme extraordinaire, mais elle a ceci de particulier qu'elle est programmée, nous sommes en 1750, avec les heures, les minutes, les secondes et les tierces, jusqu'à 9999, et elle marche encore. Et je viens de découvrir, mais juste hier, avant de vous voir, parce que je pensais que nous allons parler de cela, que les Américains, avec leur gigantisme et sans doute sans connaître mon passement, sont en train de construire une pendule qui va durer jusqu'à l'an 10 000, mais qui est géante, qui a 60 mètres, et qui vont enterrer dans le Texas, quelque part, pour que ça dure jusqu'à l'an 10 000, et que si la Terre n'existe plus, ou si on est un morceau d'étoile, puisse être conservé de manière à ce que d'autres humains ou non-humains nous découvrent. Donc on a un jumeau qui se trouve au Texas.
Alors, je disais, en introduisant votre livre, je ne sais pas si c'est un roman, parce que c'est vrai que quand on le lit, moi j'ai été au départ un peu désarçonnée, ça m'avait fait exactement le même effet avec votre Sainte Thérèse.
Oui.
Parce que on est... Et je vais vous dire à quoi j'ai pensé, alors vous allez dire, elle est complètement folle, j'ai pensé à Voltaire. Et c'est pour ça que je dis roman philosophique.
Oui,
parce qu'on est à la fois dans un modernisme total. C'est-à-dire, quand Nivy parle, c'est total, il y a de l'érotisme, c'est dit, c'est ouvert, les mots sont cachés, il y a parfois même des expressions plutôt familières. Et en même temps, ça cache autre chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des tiroirs, comme dans les meubles un peu rococo, justement, qu'il y a des tiroirs. Et en fait, la réflexion qui est conduite, c'est pas un roman. Enfin, je veux dire, le pitch, on s'en fout. Ce qui est conduit, ce sont les véritables sujets qui, aujourd'hui, mis les uns à côté des autres comme un horloger, font que cette planète tourne dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si vous avez voulu mais c'est... Et quand on en sort, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu avoir de notes, quand on en sort, on porte cette horloge en nous. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai le tic-tac, quoi. Et c'est assez incroyable comme ce roman est le roman philosophique moderne, et j'ai presque envie de dire c'est un style nouveau, et c'est de ça aussi dont j'avais eu envie de parler avec vous. J'ai l'impression qu'on crée un nouveau style littéraire.
Je vous remercie beaucoup, parce que c'était un peu le projet, et c'est dangereux, parce que c'est en effet pas le style de roman qu'on trouve dans le supermarché. Mais je suis persuadée que compte tenu de l'empire de l'image dont on a parlé dans cette émission raison de l'actualité, l'image a dévoré le roman au 19e siècle où il y a une histoire qui couche avec qui et comment on finit par vaincre la jalousie et le roman d'initiation comme ça. Et ça a été déjà résorbé par la psychanalyse parce que chacun fait son roman en allant chez son psy, mais ça a été finalement repris par l'image et les romanciers qui font des romans de ce type-là ne pensent qu'à trouver un producteur et qui transforment leur roman en film. Donc on n'écrit plus, on fait des films quand on écrit des romans grand public, ce qu'on appelle grand public. Et il reste la question de faire dans du langage une réflexion qui correspond au grand sujet auquel se heurte la science, la philosophie, par exemple le cosmos ici, la question du temps, mais de le faire de manière à ce que ça entre dans un récit et dans un langage qui est à mi-chemin entre la sophistication technique des scientifiques et le parler quotidien. Et en intégrant des sensations, des positionnements de ceux qui pensent vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'océan, vis-à-vis de l'Orier Rose, vis-à-vis des enfants, de manière à ce que à incarner la pensée. Et c'est pour cela, je crois que c'est en effet une ambition qui rejoint ce qu'on appelait au XVIIIe siècle le roman total, c'est-à-dire un récit qui porte des réflexions. Et vous me flattez beaucoup en parlant de Voltaire, mais il est aussi un personnage. Et Madame de Pompadour aussi, avec des lettres que Voltaire a écrites à son sujet et qui donnent à la fois sa fascination pour la Pompadour et aussi le ras-le-bol qu'il en avait de temps en temps. Un autre personnage de l'époque qui me fascine et qui est l'alter ego de Nivy, celle qui est le plus proche de moi, c'est Émilie du Châtelet, dont on connaît la fascination qu'elle exerce sur les féministes. Vous savez peut-être qu'il y a un institut Émilie de Châtelet en France, qui sont des féministes très philosophes, etc. Elisabeth Badinter a beaucoup travaillé sur elle, mais surtout sur le côté scientifique ou social de sa pensée qui est une protestation contre la femme au foyer, la femme banalisée. Mais on ne sait pas qu'Émilie, d'abord, était la maîtresse de Voltaire, et ensuite elle a écrit un livre sur le bonheur qui est une sorte d'essai littéraire. Et donc, déjà à cette époque-là, on essayait, ces gens-là qui sont des héros pour moi, de marier la réflexion la plus ardue avec le discours sensible, poétique, sexualisé, le plus intime. Et pour moi, c'est ça l'enjeu pour que le langage survive à l'image.
Alors, ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, tout ça est mêlé, et je parlais d'horlogerie, tout ça est mêlé de façon extrêmement intime, et on passe d'un registre à un autre. On le sent au début parce qu'on est un peu désarçonné par la lecture et puis après on coule et vous nous emmenez où vous voulez. Alors il y a beaucoup également pour celles et ceux qui aiment les rebondissements, il y a quelques rebondissements aussi parce que on est un peu dans le polar en même temps. Enfin je veux dire, oui. Il y a vraiment un jeu. Donc bon, moi je suis fan absolue. Ça fait déjà des années que je suis une fan de Julia Kristeva. Celui-là, fan absolue. Alors je regarde la montre en même temps que je vous parle, ce qui est absolument odieux parce que j'aurais bien aimé vous garder plus encore à mes côtés. L'horloge enchantée, Julia Kristeva, c'est un roman philosophique, c'est un roman absolu, c'est juste un chef-d'œuvre. Laissez tomber, vous l'achetez, vous le lisez, et après on s'en parle. Et c'est aux éditions Fayard. Julia, mille merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve de toute façon lundi prochain pour le mot de la semaine. On ne vous lâche pas.
Merci.
Il est 12h54, un tout petit peu de pub, et puis c'est Anne-Marie qu'on va retrouver pour sa chronique cinéma.
Aujourd'hui,